Le texte est en quelque sorte les louanges que le Seigneur adresse à l'église de Philadelphie, la sixième église à laquelle il a adressé une lettre. Et louanges parce qu'il n'y a aucun reproche qui est adressé à cette église dans ce courrier du Seigneur. Et comme nous sommes dans cette période de vœux, alors je souhaite qu'il en soit de même pour chacun d'entre vous qui représentait donc cette église locale vietnamienne. Philadelphie, comme vous le savez en grec, ça signifie amour fraternel. Et c'est une expression qui, dans le Nouveau Testament, va apparaître 6 fois. La première fois dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 10. Par Philadelphia, donc par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Ensuite, dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9, pour ce qui est de la Philadelphia, donc de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Troisième citation dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 1. Persévérez dans la Philadelphia, c'est-à-dire dans l'amour fraternel. Ensuite, en 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, l'apôtre dit aux chrétiens, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un Philadelphia, donc un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et pour finir, la sixième citation, en 2 Pierre chapitre 1 verset 7, « Faites tous vos efforts pour joindre à la piété, l'amour fraternel, à l'amitié fraternelle, l'amour. » Cette ville de Philadelphie, ou de Philadelphia, a été fondée par 2 frères, le roi de Pergame et le roi de Lydie en l'an 189 avant Jésus-Christ. Il y avait dans cette ville, qui se situe donc en Asie mineure, une profonde influence chrétienne. On en retrouve des traces jusqu'au XIVe siècle. XIVe siècle, c'est la date à laquelle Philadelphie fut conquise par les Turcs. Et dès l'origine, les chrétiens de Philadelphie eurent à subir une forte opposition de la part des Israélites établis dans cette région de l'Asie mineure. Voilà donc l'histoire de premiers chrétiens, de frères et de sœurs en Christ qui nous ont précédés il y a des siècles, et situation géographique et situation spirituelle. Ils sont en opposition, ils sont persécutés par ce que les Saintes Écritures, dans ce passage, appellent ceux de la synagogue de Satan. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, a cet entretien avec les pharisiens, et lorsqu'il leur dit « Si le Fils ne vous affranchit, vous ne serez jamais réellement libre », ils leur disent, nous avons pour père Abraham. Et puis, comme le Seigneur Jésus monte un petit peu le degré d'enseignement, alors ils vont plus haut, puis ils disent, nous, on a Dieu pour père. Sous-entendu, tu ne peux pas aller au-dessus. Nous sommes des enfants légitimes, on descend de Dieu, nous sommes le peuple élu. Et à ce moment-là, chose tout à fait surprenante, le Seigneur Jésus-Christ va leur répliquer, vous avez pour père le diable. Il s'adresse au peuple d'Israël. Il s'adresse à un peuple éduqué dans la loi de Moïse, pratiquant la religion de Moïse. Et pourtant, puisqu'ils font ces choses dans un état d'esprit qui n'est pas celui qui vient du ciel, alors le Seigneur Jésus en personne les regarde et leur dit à ses chefs spirituels, « Vous avez pour père le diable. » Rendez compte le choc. Et voilà que quelques décennies plus tard, eh bien c'est l'église de Philadelphie, ces chrétiens qui nous ont précédés, qui se heurtent à cette opposition farouche de ceux qui font partie de la synagogue de Satan. Mais en même temps, le Seigneur va donc les encourager avec puissance. Il leur dit : « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. » C'est donc une église qui n'a pas de capacité particulière, de personnes éminentes. Si toutefois il y avait des personnes éminentes, elles sont en quelque sorte contenues par la pression extérieure. Je ne sais pas comment vous vous considérez en tant qu'église évangélique locale. Peut-être vous vous sentez faible et petit. Et quand on voit la manifestation, là, les milliers de gens, peut-être plus que des milliers, des centaines de milliers, là. Puis nous, chrétiens, là, voilà. Vous êtes ici, nous, on est dans un sous-sol, je vous l'ai déjà dit. Hein. Notre église, c'est des caves. Hein. Il n'y a pas de fenêtre. Hein. On est en dessous, là, dans les catacombes. Et on pourrait se sentir écrasé. Et l'église de Philadelphie, le Seigneur leur dit, voici parce que tu as peu de puissance. C'est extraordinaire cette douceur et cette précision. Au lieu de dire sois puissant, le Seigneur leur dit, tu as peu de puissance. Mais parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Certes, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et vous voyez, entre garder la parole et avoir de la puissance, le plus important, c'est garder la parole. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est extraordinaire parce que dans cette expression que le Seigneur Jésus-Christ utilise, qui est une réalité, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer, il est en train de leur dire, mais allez de l'avant. Allez de l'avant. Ne regardez pas aux choses visibles. Regardez aux choses invisibles. Regardez à moi, le Christ, votre Sauveur, qui s'est présenté comme étant le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est-à-dire celui qui détient la puissance incontestée de toute autorité. Et donc à une église peu puissante, le Seigneur leur parle de lui. C'est intéressant. Au lieu de les tourner vers eux-mêmes, il leur parle de lui-même. Il leur dit, mais voilà, je suis celui qui a la clé du séjour des morts et celui qui ouvre et qui ferme les portes. Et quand je les ouvre, personne ne peut les fermer. Quand je les ferme, personne ne peut les ouvrir. C'est-à-dire, ne regardez pas à votre faiblesse. Regardez à moi. Et en même temps, le Seigneur leur donne un ordre de mission, puisque, vous le savez, avec le Seigneur, il n'y a pas d'immobilisme, d'immobilité. Il n'y a aucune raison de ne pas bouger. Nous sommes en début d'année, donc je vous donne ce message pour qu'il soit comme un leitmotiv tout au long de ces 12 mois, que vous puissiez aller de l'avant. Vous vous souvenez ce que l'Esprit a dit à Philippe quand il a pris le chemin du désert. L'Esprit dit à Philippe, avance. Vous comprenez bien que quelqu'un est envoyé dans le désert, là où il n'y a personne. Il ne voit pas encore le nuque éthiopien, il ne sait pas pourquoi il est là. Et l'Esprit lui dit, avance. Avance sans savoir, avance. Et c'est extraordinaire de retrouver à la fin des Saintes Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, cette même interpellation. Avance. Je maintiens des portes ouvertes et personne ne pourra les fermer. Et cela nous fait réfléchir au regard que nous pouvons porter sur notre propre situation en tant que chrétien, sur la situation de la communauté à laquelle nous appartenons. Individuellement, peut-être que nous hésitons à avancer, à se déterminer pour le Seigneur, à obéir au Seigneur, en se disant à quoi bon. En tant que communauté, on peut peut-être se dire, oh, qu'est-ce qu'on est peu parfait et empêtré dans différentes situations. Et pourtant, le Seigneur dit non, avance. Quels sont les secrets de la victoire de cette église de Philadelphie ? Nous en avons déjà un petit peu parlé, c'est l'obéissance à la parole de Christ. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'Église, elle sentait toute sa faiblesse, mais elle était forte de l'autorité de la parole de Dieu. Forte de l'autorité de ce que Dieu a dit. Dieu veut utiliser l'Église de Philadelphie. Dieu veut utiliser chaque sœur, chaque frère de cette Église, individuellement et en tant que communauté. Et donc, chacun est conscient de cette réalité. Et ça leur donne une force qui ne vient pas d'eux, mais la force qu'ils placent dans la parole de Dieu, dans la mission que Dieu a adressée à chacun de ces chrétiens de l'Église de Philadelphie. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. En ce début d'année 2013, le Seigneur nous renouvelle l'ordre de mission pour chacun d'entre nous. Et l'ordre de mission, c'est « Mets en pratique ma parole de ce que tu connais de ma parole, là où tu es. Mets ces choses en pratique et tu verras. » Alors par exemple, ce matin, dans l'église à laquelle j'appartiens, notre président de culte, qui est un jeune homme de 25 ans, nous disait qu'il avait décidé d'obéir au Seigneur en envoyant des SMS avec des messages chrétiens à des amis. Parce qu'avant, par négligence, il ne le faisait pas, mais pour encourager, exhorter ses frères et sœurs. Et voilà qu'il envoie un message à une sœur, pensait-il. Et voilà qu'un inconnu lui répond. S'est trompé de numéro. Il a fait le numéro de la sœur, mais il a modifié un chiffre sans s'en rendre compte. Ou plutôt, Dieu a permis que. Parce que la personne à l'autre bout du fil lui dit « Monsieur, vous m'avez envoyé un message. » Et alors le jeune homme de ce matin, notre frère en Christ, dit « je vous demande pardon. »« Ah non, pas du tout, au contraire, ça m'intéresse. Dans le temps, j'allais à l'église, j'ai laissé Dieu de côté. » Et depuis 8 jours, j'étais travaillé en ce début d'année pour me remettre ma vie en règle avec Dieu. Et voilà que votre message arrive. Vous rendez compte? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous ai vu certains tout à l'heure taper sur vos claviers, là, avec une rapidité extraordinaire, une dextérité toute asiatique. Mais voyez ce que le Seigneur peut faire. Vous pensez envoyer un message à quelqu'un et le Saint-Esprit a décidé que ça arriverait à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a un plan et il veut vous intégrer à ce plan. Il est là pour vous utiliser, vous faire voir sa gloire. Alors ce matin, notre président de culte, tout heureux, il a dit « C'est extraordinaire, j'ai vécu comme un miracle, je n'en suis même pas rendu compte. Mais quand je regarde le déroulement de l'histoire, c'est incroyable, j'aurais jamais cru écrire à ce monsieur. » Donc ils se sont vus, puis revus. Et ils entretiennent maintenant une correspondance évangélique. Ils lui envoient tous les jours par un système que vous devez connaître, là, un logiciel de versets bibliques au quotidien. Et cette personne a réintégré une église. Rendez compte. Voilà, peu de puissance. Mais le Seigneur, lui, est tout puissant, comme vous le savez. Donc simplement parce qu'il a mis en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Et ça débloque, enfin c'est pas très belle expression, ça permet à la puissance du Saint-Esprit donc d'être libéré quand l'enfant de Dieu obéit. Saint-Esprit libère sa puissance. Alors je vous en prie, allez-y, ne vous retenez pas, et vous et moi nous vivrons des choses que Dieu a prévu que nous vivions. L'Église de Philadelphie, elle n'avait rien, elle ne pouvait s'appuyer sur elle-même. Pas de puissance. C'est bien de ne pas avoir de puissance. C'est bien de se sentir l'humilité, voire dans l'humiliation des fois. On se dit on devrait être plus fort que ça. Et puis non. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, c'est dans notre faiblesse que Dieu se glorifie. Et que Dieu nous apprend la démarche de la foi et de la dépendance. Seigneur, je peux rien. Puis d'un seul coup, Dieu fait quelque chose avec nous. Mais on se dit, ça marche, il m'aime. Et puis je peux vraiment m'appuyer sur lui. Et en même temps, la parole de Dieu, qui était leur seule richesse, avec leur salut en Christ, était la source de consolation et de renouvellement de leur force. Vous savez, dans notre assemblée, comme dans la vôtre, il y a toutes sortes de personnalités. J'ai pu assister à quelques conversations avant le culte et j'ai vu les personnalités se manifester. C'est très sympathique. Et alors, je me dis, c'est extraordinaire parce qu'on est tous pareils, asiatiques ou européens. On a des traits de caractère, on se retrouve. Hein. Et je connais des frères et des sœurs qui sont toujours en deçà. Ils se disent, ah non, moi je ne sais pas. Et pourtant, quand j'écoute leur témoignage, c'est incroyable ce que Dieu fait au travers de ces personnes qu'il ne fait pas avec moi. Les gens qui, par leur humilité en quelque sorte, parce qu'ils se disent non, je ne suis pas capable, ils ont un contact, une approche des personnes qui détend la personne qu'elles approchent. Et alors, la personne qu'elles approchent va s'ouvrir. Avec un type comme moi, les personnes se ferment. Parce qu'elles se disent, ce gars-là, il va nous rendre, il va nous manger. Mais avec mes frères et sœurs en Christ, là, c'est extraordinaire. Et moi, des fois, j'aurais envie d'être comme elles, comme ces personnes-là. Mais Dieu m'a donné un autre don. Bon. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire d'avoir chacun notre personnalité et en même temps un dénominateur commun, la parole de Dieu et l'obéissance à cette parole. Aujourd'hui, vous le savez, le sort d'innombrables perdus dépend d'une minorité résolue, qui ne regarde pas à la faiblesse de ses moyens, mais à la force de son arme, qui est la parole de Christ. Nous avons beaucoup de chrétiens qui témoignent, et ce matin encore, on entendait toutes sortes de témoignages des uns et des autres au quotidien. Et ils ont cette force de simplement partager l'Écriture sainte, une réflexion au travers d'un film, d'une émission de télévision, d'une situation de la vie de tous les jours, d'un problème d'actualité. Et nous sommes une minorité de chrétiens, évangéliques en tous les cas. Mais nous sommes capables, par la puissance de Dieu, d'accomplir énormément de choses. Parce que si nous sommes peu, Lui est tout, c'est le Tout-Puissant. Et donc n'oublions pas que tous ceux qui nous entourent n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur parle. On leur parle, tout simplement. Et je vais partir bientôt, la semaine prochaine à Grenoble, la semaine d'après à Strasbourg, la semaine d'après à Nice, la semaine d'après à Villeneuve-sur-Saône, pour parler de l'Évangile, parce que les églises veulent évangéliser. Puis c'est drôle parce qu'ils ne savent pas comment faire, alors que c'est tellement simple, parler. Vous qui aimez la technologie, chers frères et sœurs en Christ, vous parlez de la technologie, j'imagine. Je vous vois tellement vous agiter avec tout ça, vous êtes à l'aise et tout, les ordinateurs. Je suis persuadé que vous êtes à l'aise pour parler de tout ça. Et parler de la même manière, naturellement, du Christ. Et ça marche, hein. Et quand je vois tous vos jeunes là, qui sont là, je me dis, un potentiel extraordinaire pour le témoignage. Puis vous aussi, les plus âgés, un potentiel remarquable pour le témoignage. Et puis, pour avancer quand même, ils n'avaient pas renié le nom du Seigneur. Vous savez, on ne se rend peut-être pas compte pour nous, parce que nous sommes dans un pays libre encore, au niveau de la foi. Mais quand vous êtes sous la pression d'une opposition violente et farouche, pour déraciner votre foi, et que vous risquez votre vie, si vous ne reniez pas le nom du Sauveur, eh bien c'était leur situation à eux. Et ils ne reniaient pas. Ils étaient prêts à mourir. J'ai conscience de m'adresser à un peuple qui a énormément souffert, le peuple vietnamien. Et un jour j'ai partagé avec un peuple cambodgien, et d'un seul coup j'ai pris conscience un petit peu de leur histoire. Et je me suis dit, mais ils ont laissé tellement d'hommes et de femmes, de familles, là-bas dans leur pays, massacrés par différents régimes politiques. Et c'est la même chose pour Christ. Cet engagement total, pas renier, au risque de sa vie. Et je n'ai pas de leçon à vous donner, je n'ai plutôt à apprendre de vous. Mais c'est cela notre vie de disciple, ne pas renier le nom du Sauveur dans un pays en paix qui s'appelle la France. Donc n'hésitons pas à parler du Maître. Ne renions pas, ne cachons pas, ne taisons pas son nom, puisque nous ne risquons pas grand-chose, si ce n'est peut-être quelques moqueries. Bon. Et là, nos amis de Philadelphie, qui étaient sous l'opposition, eh bien, n'avaient pas renié le nom du Seigneur. Et à cause de cela, simplement, amour de l'Écriture sainte, persévérance, comme il est dit plus loin, puisque verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Vous savez ce que c'est que persévérer envers et contre tout. Eh bien, notre vie chrétienne nous invite à la même disposition de cœur. Alors le Seigneur leur dit, mais je vais vous garder de la tentation qui va venir sur le monde. Il y a là dans le grec quelque chose d'intéressant, c'est que être gardé de la tentation dans ce contexte, c'est être sorti avant que la tentation n'arrive. Le « a » en grec, c'est « ek », donc c'est sorti, extérieur, hors d'eux. Et comme cette église de Philadelphie est quelque part un exemple de ce qui va arriver dans la fin des temps, alors cela nous fait penser à chacun d'entre nous, ce qui nous attend. Le retour du Seigneur Jésus-Christ et le fait d'être enlevé avant certains événements dont les Saintes Écritures nous parlent, la grande tribulation. Alors que vous et moi, nous puissions tout au long de cette année vivre pour le Seigneur en gardant sa parole, en conservant justement cette persévérance de la parole en Christ, en ne reniant pas son nom, et que nous puissions connaître les joies de cette communion intime avec lui, d'une vie d'obéissance, et qu'à la fin de l'année 2013, si le Seigneur n'est pas revenu, il puisse lui aussi nous adresser des louanges dans le secret de nos cœurs et dans nos consciences, dans notre face-à-face avec lui. Que Dieu garde chacun d'entre nous, et que nous nous souvenions, pour la durée de cette année, au cours des mois qui vont s'écouler, de l'exemple de ces chrétiens de Philadelphie qui ont été fidèles jusqu'au bout pour la gloire de Christ. Amen.